Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui. Eh oui, bye bye Bebel. Hommage national à Jean-Paul Belmondo cet après-midi. Il y a déjà du monde aux Invalides. Nous y allons dans un instant. La contraception gratuite pour les femmes jusqu'à 25 ans. Quel moyen de contraception? Pour quelle raison à cette annonce? Véronique Julia nous explique. Faut-il empêcher l'accès aux sites porno tant qu'un vrai filtrage pour les mineurs n'est pas en place? Audience au tribunal ce matin, nous y serons. Un premier slogan de campagne pour Marine Le Pen, liberté, liberté chérie. Et puis après, Arnaud Montebourg, elle aussi veut nationaliser les autoroutes. Combien cela coûterait-il? Les prix de l'immobilier ancien continuent d'augmenter, poussés par les transactions en province. Les notaires et l'INSEE faisaient le point ce matin. Les appartements parisiens en très légère baisse. En Chine, alerte sur ce marché de l'immobilier. Les dettes abyssales du deuxième promoteur du pays menacent de perturber tout le système. On peut réduire les inégalités à l'école. Certaines mesures marchent déjà. Le sociologue Éric Morin s'attaque à deux sujets controversés. Selon lui, l'interdiction du voile permet d'améliorer les résultats scolaires des jeunes filles. Plus largement, les inspections d'enseignants ont aussi des effets positifs. Vos questions à Éric Morin, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. Intervenez notamment si vous êtes enseignant, que vous avez subi une inspection. Est-ce que cela a changé votre manière de travailler? Nous ferons le point de la situation à Agen. Au lendemain des inondations, encore 4 départements d'Occitanie en vigilance orange. À Marseille, la hausse du niveau de la mer menace la grotte Cosquer, joyau préhistorique. Une réplique doit ouvrir l'an prochain. Visite. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Et avant de filer aux Invalides pour voir comment se prépare la cérémonie d'hommage à Jean-Paul Belmondo, un témoignage qui raconte bien le tempérament de l'acteur disparu lundi et l'époque où il est devenu un nom du cinéma. Témoignage du photographe Raymond Depardon. Une de ces images a été publiée dans le supplément du Monde daté d'hier. Noir et blanc, bébel jeune, posture de boxeur, les poings en avant dans un grand manteau à col fourré. Depardon raconte l'histoire de cette photo, c'était à Paris.
Je suis content d'avoir photographié Jean-Paul Belmondo. J'avais 18 ans, c'était en 1960. Il venait de terminer... où il avait terminé, mais le film n'était pas encore sorti, À bout de souffle, de Jean-Luc Godard. Et il était rue Saint-Honoré, et il s'achetait un costume. Et il faisait le pitre. Et c'est formidable, parce que moi, j'étais habillé avec une veste, avec une chemise en nylon, avec une cravate. Et puis, il voyait bien que j'étais tout jeune, quoi. Au relais flex, avec le flash, comme ça. Et il posait pour moi, et il s'amusait. Et je ne l'ai jamais revu. Et donc, j'ai que ces photos. Je suis très content que la photo ait été publiée dans Le Monde, parce que c'est une période, c'est toute une période, quoi, de proximité. On était à 1m50 des gens. Et en fait, il ne regarde pas la caméra, il me regardait. Donc, je me suis dit, mon ami devait voir que j'étais pas très bien habillé, j'étais pas sûr de moi. Mais non, il me faisait confiance. Et ces photos n'ont jamais été publiées. C'est émouvant, quoi. Et il faut que maintenant, aujourd'hui, il a disparu et ces photos sont publiées.
Un propos recueilli par Mathilde Imberti à Lyon, où se déroule une rétrospective de pardon à l'Institut Lumière. C'est à 16h30 que commencera dans la cour des Invalides l'hommage national au magnifique. Le cercueil et le convoi qui l'accompagne est en train d'arriver aux Invalides. Bebel, ce trésor national, comme l'a qualifié Emmanuel Macron, le président prononcera l'éloge funèbre devant ce cercueil recouvert du drapeau tricolore. Le grand public y est associé. Les 1000 premières personnes qui se présentent munies d'un pass sanitaire pourront entrer. Pour les autres, écran géant sur l'esplanade des Invalides. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Rémi, vous êtes déjà sur place pour France Inter avec des babas de Bebel.
Oui, ceux qui patientent depuis des heures, ce sont ces inconditionnels, vous savez, ceux qui sont capables de vous réciter les répliques de Belmondo. Nathalie, par exemple, elle a quitté Tours très tôt pour être là.
Levé ce matin, enfin pris le train ce matin à 6h06 pour rendre hommage au grand, que dis-je, l'immense Jean-Paul Belmondo. Quand on n'allait pas bien, on regardait ses films. Ouais, il aurait dû être remboursé par la sécurité sociale. Hein. Je peux même pas dire que j'ai un film préféré parce que je les aime tous. Les films d'auteur aux films populaires.
Des films populaires pour un acteur qui l'était tout autant, c'est ce qu'on ressent en écoutant ceux qui patientent ici, comme Christelle, 46 ans, qui l'a rencontré, nous dit-elle, plusieurs fois.
Il a toujours fait partie de ma vie et je ne pouvais pas imaginer ne pas être là aujourd'hui. Bebel, c'est comme le chocolat. C'est quand on va pas bien, on regarde Bebel. Quand on va bien, on regarde Bebel et tout de suite, on a le sourire, on a le bonheur et j'aime sa gueule, j'aime le fait qu'il me fasse rire et c'est comme ça.
Et cette gueule, on peut la voir imprimée sur le t-shirt de Laurent qui arbore une autre image iconique de de Belmondo, cigarette au bec dans À bout de souffle, Laurent a aussi apporté une partie de sa collection d'autographes.
Quand j'étais gamin, je l'ai vu en photo dans des magazines, j'ai collectionné les photos, puis après j'ai pu arrêter, quoi. Pour moi, il était immortel, quoi.
Et pour participer à l'hommage à cet immortel du cinéma, les 1000 premiers admirateurs pourront entrer dès 14h30.
Bébelle, c'est comme le chocolat. Rémi Brancato en direct des Invalides avec Virginie Lorda pour les moyens techniques et édition spéciale consacrée à cette cérémonie à partir de 16h sur France Inter. Les obsèques de Jean-Paul Belmondo ont lieu demain matin en l'église de Saint-Germain-des-Prés. Après une première journée émaillée par les récriminations de Salah Abdeslam, les plus de 2000 participants au procès des attentats du 13 novembre se retrouvent au palais de justice de l'île de la Cité à Paris. Bonjour Charlotte Piré.
Bonjour.
Deuxième journée d'audience, donc quelle est la tonalité du jour, Charlotte ?
Alors c'est clairement moins l'effervescence qu'hier hein, pour l'ouverture du procès. Pour cette deuxième journée, les bancs de l'immense salle d'audience sont clairsemés et l'audience vient d'ailleurs tout juste de reprendre à l'instant. Il faut dire que cette deuxième journée est encore consacrée à des questions de procédure avec la possibilité pour les victimes qui ne se sont pas encore constituées partie civile de le faire pour la suite de ce procès. Quelques 800 personnes pourraient ainsi être concernées, mais on ne sait pas combien voudront effectivement en faire la démarche. L'autre inconnu, c'est évidemment l'attitude du principal accusé, Salah Abdeslam. On l'a vu arriver dans le box il y a peu, puis en ressortir pour aller s'entretenir avec son avocate, Maître Olivia Ronen, ce que le président a tout à fait autorisé, de manière assez classique d'ailleurs. Il est désormais de retour à sa place dans l'immense box de verre à l'extrémité la plus proche de la cour. Salah Abdeslam, que l'on a donc entendu à deux reprises hier, revendiquer son appartement à l'État islamique tout d'abord, puis plus tard s'octroyant lui-même la parole pour dénoncer en termes vifs ses conditions de détention. Le programme du jour ne prévoit pas qu'il s'exprime aujourd'hui, mais ainsi qu'il l'a d'emblée indiqué à la cour hier, le seul survivant des commandos terroristes du 13 novembre ne reconnaît pas vraiment la justice des hommes. Reste donc à savoir s'il a l'intention d'en suivre les règles.
Charlotte Piré en direct du Palais de Justice sur l'île de la Cité à Paris. Ce procès est à suivre sur France Inter, sur franceinter.fr et sur Twitter via les comptes de Charlotte et de Sophie Parmentier, les deux envoyées spéciales de votre radio tout au long de ce procès. Dans l'actualité judiciaire, encore cette question. Agnès Buzyn sera-t-elle mise en examen dans le cadre de l'enquête sur la gestion de la crise sanitaire à son tout début? L'ancienne ministre de la Santé avait démissionné mi-février 2020 pour être candidate au municipal à Paris. Elle est convoquée demain à la Cour de justice de la République. La France n'acceptera aucun chantage. Réaction du gouvernement alors que Londres menace de raccompagner vers les eaux françaises certaines embarcations de migrants. Une nouvelle vague de migrants traversant la Manche est observée depuis cet été, cette année. Hier, par exemple, lundi, 785 migrants sont arrivés au Royaume-Uni. C'est l'annonce surprise de ce milieu de semaine. La contraception sera désormais gratuite pour les jeunes femmes jusqu'à 25 ans. Bonjour Véronique Julien.
Bonjour.
Détaillez-nous cette décision s'il vous plaît.
Alors pourquoi cette décision ? Eh bien parce que trop de jeunes femmes renoncent encore à la contraception à cause de son coût. C'est ce que le ministre de la Santé Olivier Véran a précisé ce matin. Cette gratuité était déjà accordée aux mineurs, ce qui a permis d'ailleurs ces dernières années de faire baisser leur taux de recours à l'IVG. À l'inverse, ce taux de recours reste important dans la tranche d'âge des 20-29 ans. On va donc étendre la gratuité jusqu'à un âge où théoriquement les femmes deviennent plus installées dans la vie en termes d'autonomie, de revenus et de couverture sociale. Concrètement, toutes les contraceptions de base sont concernées par cette prise en charge à 100%, pilules, stérilets, implants, sont concernées aussi l'éventuel bilan biologique, les soins et la consultation de prescription. Les professionnels de santé et les associations applaudissent bien sûr. Rendre gratuite la contraception la plus courante et qui n'était jusqu'à présent que partiellement remboursée à 65 ou 70%, c'est bien. Sauf que pour le professeur d'obstétrique Israël Nizan, ça ne va pas encore assez loin. Pour bien faire, d'après lui, ce sont tous les modes de contraception qu'il aurait fallu rendre gratuits et pas seulement une partie d'entre eux.
Que toute contraception soit gratuite, au moins jusqu'à 25 ans, pour que les femmes aient le choix et qu'elles puissent, par exemple, prendre un anneau vaginal ou un patch si elles en ont envie sans que ça leur coûte 15 euros par mois.
Et ça, c'est pas pris en compte là.
Mais du tout.
On peut aller plus loin.
On ne peut pas rester avec une IVG gratuite, quel que soit le nombre d'IVG, et une contraception payante. Payante pour les femmes qui veulent pas les lunettes de la sécurité sociale.
La mesure va entrer en vigueur en tout cas le 1er janvier prochain. Elle va concerner 1,6 million de jeunes femmes. Coût de l'opération pour l'assurance maladie, 21 millions d'euros par an.
Autre initiative du gouvernement à destination des jeunes gens, garçons et filles, sur le site Un Jeune, une solution, des offres de job désormais, il y en a 15 000. Marlène Schiappa, par ailleurs, ministre en charge de la citoyenneté, annonçait que 12 000 travailleurs étrangers de la première ligne en France seront naturalisés. Des soignants, des agents de sécurité, des hommes ou femmes de ménage, des aides à domicile. C'est le bilan d'un processus lancé il y a un an. Il avait été décidé de faciliter l'acquisition de la nationalité pour les travailleurs étrangers de ces secteurs qui en faisaient la demande. 16 000 dossiers ont été présentés, 12 000 ont été validés. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Maxence, contraception, naturalisation, ajoutons le revenu d'engagement pour les jeunes qui doit bientôt être détaillé. En cette rentrée, l'exécutif fait marcher sa jambe gauche.
Et oui, tous les anciens socialistes de la Macronie ont l'air heureux. J'en attendais pas tant, sourit même l'un d'eux. C'est sans doute notre meilleure rentrée à chaque jour ou presque son annonce symbolique. Le plan pour Marseille, l'aide aux villes moyennes, bientôt en effet le revenu d'engagement pour les jeunes, puis le plan d'investissement France 2030. Demain, Emmanuel Macron au chevet des jeunes agriculteurs en Provence, avec aussi le chéquier en main. Et aujourd'hui donc, naturalisation et contraception gratuite. Pas sûr qu'on tienne ce rythme jusqu'à l'élection, se méfie un député. Deux belles annonces le même jour, c'est dommage, ajoute un communicant du pouvoir. Rien de tel pour faire oublier l'abandon de la loi Grand Âge. Autonomie, se dit un autre, abandon passé quasiment inaperçu en effet, alors que c'était l'une des grandes promesses sociales de cette dernière année. L'aile gauche espère encore des mesures généreuses dans le budget de la sécurité sociale qui est en plein arbitrage et se méfie malgré tout de la suite. Si la campagne vire à droite, que la gauche s'avère vraiment inaudible, éparpillée, Emmanuel Macron en tirera les leçons.
Marine Le Pen, elle aussi, pose des jalons en ce début d'année électorale. Un premier slogan de campagne, liberté, liberté chérie, comme dans la Marseillaise, mais au pluriel, les libertés. Une affiche aussi où n'apparaît ni le nom de Le Pen, ni celui du Rassemblement National. Le slogan est en vert, là aussi c'est un changement. Et côté programme, deux propositions. La privatisation de l'audiovisuel public, mais les nationalisations des autoroutes. Cette question est également au programme d'Arnaud Montebourg et le communiste Fabien Roussel, invité du 13-14 hier, plaidait également pour cette nationalisation des autoroutes. Alors, examinons la mesure. Laurent Kramer, combien coûterait-elle aux finances publiques?
Alors, l'idée de nationaliser les autoroutes implique tout d'abord d'interrompre ces contrats de concession avant leur échéance, à savoir 2030 au plus tôt, jusqu'en 2036 pour l'essentiel du réseau routier. Certaines concessions courent jusqu'en 2070. Cela implique le calcul d'une indemnité de compensation pour l'interruption du contrat. Et surtout de valoriser l'ensemble des investissements et des travaux d'aménagement réalisés pour plus de 20 milliards d'euros par les sociétés d'autoroutes ces 15 dernières années. Le calcul devient alors vertigineux, cédé. En 2005, par le gouvernement de Dominique de Villepin, l'État devrait aujourd'hui débourser pas moins de 40 à 50 milliards pour récupérer avant échéance 9000 km de réseau routier, soit trois fois plus que les quelques 15 milliards d'euros encaissés à l'époque. Remettre la main sur l'ensemble du réseau autoroutier implique également d'en supporter la charge. Une nationalisation permettrait certes de faire baisser les tarifs, mais impliquerait dans le même temps de lourdes dépenses d'investissement dans les années qui viennent pour les finances publiques.
Marine Le Pen devra-t-elle affronter une candidature d'Éric Zemmour? Toujours pas de réponse en ce qui concerne Zemmour. Le CSA le considère en tout cas désormais comme un acteur du débat politique et demande aux médias audiovisuels de décompter ses temps de parole. Problème pour CNews puisque le polémiste est à l'antenne tous les soirs. Il le sera ce soir, confirme la chaîne à la spécialiste média de France Inter Alexandra Hakoun. Éric Zemmour qui a été relaxé hier par la cour d'appel dans une des affaires dans lesquelles il est poursuivi, en l'occurrence pour injures et provocation à la haine. Les changements de mode de vie annoncés après la crise sanitaire se voient-ils durablement dans le marché de l'immobilier? Les notaires et l'INSEE donnaient les derniers chiffres en date, le deuxième trimestre, ce matin. Bonjour Frédéric Violeau.
Bonjour.
Vous êtes notaire à Caen, membre du Conseil supérieur du notariat. Le prix de logements anciens grimpe de 6% sur un an, tiré essentiellement, c'est bien cela, par les transactions en province?
Oui, c'est tout à fait cela, c'est la grande nouveauté. Ce qu'on a cru d'abord être une réaction au sens quasi physiologique du terme après le premier confinement, le confinement dur entre mars et mai 2020, semble se confirmer encore aujourd'hui. Donc les prix augmentent plus vite pour les maisons que pour les appartements, ce qui est relativement nouveau, puisque traditionnellement les premiers mètres carrés coûtent toujours plus cher que les suivants. C'était plutôt les appartements qui tiraient le marché vers le haut, et là ce sont les maisons qui ont pris le relais, ce qui est un phénomène relativement inédit, en tout cas depuis plusieurs années, on n'avait pas vu ça depuis longtemps.
Plus 7% pour le prix des maisons en province. Il y a beaucoup de transactions.
Beaucoup de transactions, volume de transactions qui atteint un niveau record au second trimestre 2021 sur une année glissante. On est sur 1 155 000 transactions. Pour vous donner un point de comparaison, on pensait fin 2019 qu'on avait atteint un volume de transactions record en dépassant 1 million de transactions. Ben aujourd'hui, on est encore un peu plus haut. Donc le marché résiste à la crise sanitaire.
Nos confrères du Figaro parlaient hier d'un boom des villes moyennes et de la grande banlieue. C'est ce que vous constatez ?
On constate effectivement une augmentation importante des volumes sur certaines villes de province. Globalement, si on regarde une carte de France des villes de province, on va s'apercevoir effectivement que les voyants sont plutôt au vert sur la majorité d'entre elles. Et ça se fait au détriment de certains grands centres urbains. Ce sont des phénomènes qu'on commence à mesurer. On a d'abord, évidemment, naturellement orienté le microscope sur Paris intramuros. Oui. Et puis, on s'aperçoit de phénomènes similaires dans d'autres grandes villes. C'est le cas à Lyon et c'est le cas dans une moindre mesure à Toulouse. Donc, il faut être observateur de ces mouvements-là. Mais il semblerait que ce soit une tendance un petit peu plus générale.
Alors, Paris intramuros, les appartements, le prix des appartements stable et même en légère baisse.
Légère baisse, oui. Alors, il ne faut pas s'attendre non plus à un écroulement de marché. On n'est pas du tout en train de dire ça. Les prix atteignent un effet plateau, effectivement, sur Paris intramuros. Les volumes également, alors qu'en Ile-de-France, les volumes ont progressé de manière importante sur une année. Donc, on voit bien ce phénomène de sortie de centre, mais il faut rester très mesuré quand même et se garder de toute qualification d'exode urbain. Hein. On a pu lire ou entendre ça de ci, de là. Il faut prendre ce phénomène-là à sa juste mesure. Quand on regarde justement ceux des Français qui ont décidé d'aller investir en dehors de leur département, on s'aperçoit que ils sont environ 6 000 de plus cette année que l'année dernière. Alors, plus 6 000 sur un volume global de 1 155 000 transactions. Bon, faut se détendre, hein, c'est pas un exode.
En quelques mots, Frédéric Violeau, est-ce que le surplus d'épargne, 157 milliards, nous disait la Banque de France cette semaine, fait gonfler les prix de l'immobilier ?
Qui permet au prix de l'immobilier de garder cette dynamique relativement haussière, même si c'est une hausse qui semble un petit peu quand même se stabiliser. Oui. Ce sont surtout les taux d'intérêt qui restent faibles et qui permettent ainsi justement de porter les prix. Ce qu'on va pas mettre dans les intérêts, on va pouvoir le mettre dans le capital de ce qu'on emprunte à mensualité équivalente. C'est surtout là que se joue ce marché-là, qui est un marché qui est évidemment massivement orienté par l'emprunt.
Bien noté. Merci beaucoup Frédéric Violeau d'avoir pris quelques minutes avec nous en Chine à propos de l'immobilier. C'est un gros coup de tonnerre que redoute le régime. Le quotidien Les Échos en fait sa une sur 4 colonnes ce matin en France. Le géant de l'immobilier Evergrande est au bord de la faillite et risque de faire trembler un secteur clé pour l'économie chinoise. À Pékin, Stéphane Pambrin.
La folie des grandeurs a rattrapé le groupe Evergrande, le deuxième promoteur immobilier de Chine et criblé de dettes après s'être un peu trop diversifié, aussi bien dans le football, il est propriétaire du club de Canton, 7 fois champion de Chine, que dans les parcs de loisirs, l'eau minérale et même la voiture électrique. Des investissements souvent hasardeux, son endettement abyssal dépasse aujourd'hui les 250 milliards d'euros, impossible à rembourser. Le titre du groupe a perdu près de 80% depuis le début de l'année à la bourse de Hong Kong. Pékin a donc sonné la fin de la récréation et refuse de mettre la main au portefeuille pour renflouer les caisses du groupe, quitte à laisser mourir l'un des fleurons du pays, employant plus de 200 000 personnes. On appelle rhinocéros gris en Chine ces grosses entreprises à l'endettement alarmant et qui présentent un risque financier systémique. Mais c'est surtout le risque de contagion qui inquiète les marchés. Si Evergrande fait faillite, d'autres groupes pourraient suivre. Les défauts de paiement des entreprises chinoises atteignent des sommets et un tiers concerne des groupes immobiliers, longtemps locomotive de l'économie nationale. Pékin, Stéphane Pambrin, France Inter.
En effet, selon Les Échos, l'immobilier représente un quart de la richesse nationale en Chine et 10% des emplois. En Allemagne, quand la très réservée Angela Merkel se dit féministe, un mot et ses connotations politiques qu'elle avait soigneusement évitées jusque-là, c'était lors d'une rencontre avec une écrivaine nigériane, figure de l'émancipation des femmes. Le féminisme, dit la chancelière, consiste essentiellement à dire que les hommes et femmes sont égaux dans le sens d'une participation à la vie sociale, à toute la vie. Dans ce sens, oui, je suis une féministe. C'est le 26 septembre, dans un peu plus de 2 semaines, que se tiendront les élections législatives en Allemagne qui marqueront la fin de la période Merkel. À ce stade, avantage dans les sondages au social-démocrate Olaf Scholz. Mais il y aura très certainement une coalition. Aucun parti n'emportera la majorité à lui seul. Et la France suit évidemment cela de près. 2 candidats ont même été reçus cette semaine à l'Élysée après les années Merkel et Helgoz et leur lot de rencontres bilatérales.
My name is Emmanuel. Paris.
Bonjour, oui. J'appelle Angela.
Ces deux-là ne sont pas bilingues, mais ils auront pendant 5 ans incarné la stabilité du couple franco-allemand. Juin 2017, la chancelière est en visite à Paris. Angela Merkel laisse un immense vide politique. Inquiétant, pas forcément, rétorquent les conseillers diplomatiques du président. Il y aura même une inversion de la tradition. Depuis 20 ans, c'est toujours le nouvel élu français qui s'envole pour Berlin. Cette fois, ce sera Berlin-Paris. Emmanuel Macron, partenaire incontournable de la future coalition. Lenteur des tractations, ça, l'Élysée s'y prépare. Mais le président n'aura vraiment besoin de son alter ego qu'en janvier. Emmanuel Macron les connaît déjà tous, ou presque. L'écologiste Annalena Baerbock, avec qui il a dîné à Munich en février 2020. Le conservateur Armin Laschet, reçu hier à l'Elysée, et le social-démocrate Olaf Scholz, lui, c'était lundi. Tous pro-européens. L'enjeu côté français, c'est que les dossiers qu'Emmanuel Macron portera au nom des 27 ne soient pas freinés. Taxe carbone aux frontières, régulation des GAFA, salaire minimum, un agenda vert et social qui sera aussi une vitrine pour le candidat Macron. En coulisses, petite préférence pour Olaf Scholz, l'actuel vice-chancelier, avec qui la relation a été fluide au plus dur de la crise sanitaire, pour relancer et mutualiser la dette au niveau européen.
L'accès aux principaux sites pornographiques, YouPorn et les autres, va-t-il être bloqué en France? C'est ce que demandent deux associations de protection de l'enfance. Elles assignaient ce matin en justice les fournisseurs d'accès à Internet, SFR, Orange, Bouygues, etc. Le code pénal n'est pas respecté, estime-t-elle. Les mineurs peuvent accéder trop facilement à ces sites. Un simple clic pour dire ou prétendre que l'on est majeur. Mathilde Vinceneux, vous avez assisté à l'audience ce matin au tribunal judiciaire de Paris, Mathilde.
Oui, et les débats ont été très animés. Ils se sont concentrés sur deux questions. La première, est-ce bien à Bouygues, Orange, SFR, Free,
une petite rupture de
ne vaut-il pas mieux poursuivre les hébergeurs? Ils sont difficilement identifiables, rétorque l'avocat des associations. Deuxième question, le blocage pour tous de l'accès à ces sites, puisque pour l'instant, vous le disiez, seule une case à cocher permet de s'assurer que le public n'est pas mineur. Pour les six robes noires qui représentent les fournisseurs d'accès, c'est une atteinte à la liberté sur Internet et donc à la liberté d'expression. Eh bien, si vous avez une autre solution, on est preneur, fustige l'avocat des associations. Le président demande alors comment faire pour cibler uniquement les mineurs. Un site français le fait, Jackie et Michel. Il demande une carte bancaire, explique l'avocat d'Orange, avant de préciser avec un sourire qu'il n'est pas expert. Et le contrôle parental, poursuit le président. Les fournisseurs y travaillent tous les jours, assurent leurs avocats. De son côté, la procureure insiste sur la nécessité de protéger les enfants. Elle rappelle ce chiffre, dès l'âge de 12 ans, un tiers des enfants ont déjà été confrontés à de la pornographie sur Internet.
Mathilde Vinceneux en direct du tribunal judiciaire de Paris, décision attendue le 8 octobre. Alors quelle solution pour que seuls les majeurs accèdent à ces sites? La Grande-Bretagne a creusé la question, Richard Place, sans arriver à des conclusions très satisfaisantes.
Le Parlement avait voté. Les internautes en quête de pornographie allaient devoir impérativement justifier de leur âge. Charge au site de mettre en place ce contrôle sous peine de sanctions de la part des opérateurs Internet. Ça, c'était la théorie. En pratique, un casse-tête. D'abord, comment contrôler? Le pur déclaratif ne sert à rien, un mineur peut tout à fait mentir. Plusieurs systèmes ont été évoqués, allant de l'achat d'un pass auprès d'un marchand de journaux, un code personnel donnant accès au porno en ligne. Il a aussi été question d'utiliser les numéros de carte de crédit. Des entreprises ont étudié les possibilités attirées par un marché qui pourrait concerner 25 millions de Britanniques. Mais dans le même temps, des élus et des associations ont pointé le risque d'intrusion dans la vie privée. Qui stockerait ces données sensibles? Avec quelle sécurité? 2 ans de débats, d'études et de réflexions pour finalement abandonner. Aujourd'hui, des sites pornos sont en libre accès au Royaume-Uni. Ils ont même connu des records de fréquentation pendant les confinements. Londres, Richard Place, France Inter.
L'eau baisse presque aussi vite qu'elle est montée à Agen. Mais quels dégâts après la nuit d'orage? On mesure cela un peu plus ce matin. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Faisons un point avec vous Béatrice.
Il reste évidemment les séquelles ce matin. Place au nettoyage dans les rues du centre-ville d'Agen où l'eau est montée par les égouts et d'un coup, Stéphanie peine encore à réaliser.
C'est arrivé très vite, personne n'a compris ce qui se passait. Tout d'un coup, l'eau a commencé à monter et en l'espace de quelques minutes, on s'est retrouvé submergé, je sais pas comment on peut dire, mais nous, par exemple, on s'est retrouvé très rapidement avec 90 cm d'eau.
Explication en chiffres pour Stéphanie qui n'en a pas dormi de la nuit. On comprend pourquoi 126 mm d'eau tombée en 2 heures sur Agen, alors qu'à 10 km, Montesquieu, il n'a pas plu. Ou quasiment. Un phénomène de mousson, raconte Jean-François Berthoumieux, le président de l'association climatologique de la Moyenne-Garonne.
Il n'y avait pas de vent en altitude,
les gouttes de pluie grossissaient en l'air, poussées par un flux ascendant vertical, et puis à un moment donné, ben, c'est un seau d'eau qui se vide. Alors que quand il y a un orage poussé par du vent, ce seau d'eau se répartit sur 30, 40 kilomètres de long. Et là, non. Les 10 plus 10 plus 10 tout tombaient à la même place pendant 2 heures.
Hier soir, 20 personnes ont dû être mises en sécurité par les pompiers, relogées aussi. Ce matin, les dégâts sont donc matériels uniquement et plutôt mesurés au bout du compte pour Clémence Brandola-Robert. Elle est première adjointe au maire d'Agen.
Depuis ce matin, 5h, on est sur le qui-vive pour aider les administrés qui ont été sinistrés à vider leur garage, à nettoyer, à pomper l'eau. On a également fait un gros travail sur des écoles pour qu'on puisse accueillir tous les élèves agenais. Donc voilà, vraiment très mobilisés pour faire en sorte que la vie reprenne son cours rapidement.
Séquence nettoyage donc essentiellement parce que ce sont les égouts qui ont débordé, je vous le disais, et qui ont envahi les logements, les garages et les caves.
Et 4 départements d'Occitanie restent en vigilance orange. On retrouve dans quelques instants Élodie Calac. D'abord à propos d'eau qui monte, l'élévation du niveau de la mer, cette fois due au changement climatique, met en péril un joyau préhistorique. La grotte Cosquer, dans les Calanques de Marseille, c'est la seule grotte ornée sous-marine au monde. Elle a été découverte il y a 30 ans. Elle risque de disparaître à tout jamais alors que son étude n'est pas achevée. Une restitution, comme à Lascaux et Chauvet, doit ouvrir l'an prochain. Pour être fidèle à l'original, Sophie Becherel, elle est baignée dans l'eau.
Là, on descend 2 étages en dessous.
À 2 pas du Mucem, c'est dans la villa Méditerranée qu'est installée la réplique de la grotte Cosquer. Un chantier difficile pour l'entreprise Kléber-Rossillon. Sylvain Depitou en est le responsable commercial et communication.
L'idée, c'est de faire rentrer quelque chose de trop grand dans quelque chose de trop petit. La grotte réelle n'était pas réplicable. On n'en a pas fait une réplique, on en a fait une restitution. L'idée, c'est de répercuter toutes les peintures et toutes les gravures qu'il y a dans la grotte Cosquer.
500 peintures ou gravures ont été reproduites sur 3800 m² de parois. Laurent Delbos pilote ce projet.
D'abord, on fait le squelette de la grotte. C'est ce que vous voyez, ce grand grillage-là, qui constitue une armature métallique. On les assemble, on les soude entre eux, et on obtient la forme de la grotte. Là-dessus, on vient agrafer un grillage qui vient donner la texture. Et par-dessus ce grillage, on vient projeter une première couche de béton qui donne la forme de la grotte.
Ensuite, seront insérés les 28 panneaux réalisés en atelier, puis toutes les concrétions et autres reliefs de la grotte. Dans la réplique, le visiteur sera transporté dans des sortes de wagonnets sur pneumatique. Sylvain Depitou.
Il faut voir que dans la vraie grotte Cosquer, on ne déambule pas. Donc nous, on a préféré faire un module d'exploration qui va ensuite avancer extrêmement silencieusement et effectuer des rotations avec pas mal d'endroits dans la grotte où vous allez avoir des bassins d'eau à droite et à gauche, ce qui va vous donner l'impression d'être vraiment immergé.
Au-delà du spectacle, ce nouveau facsimilé sera aussi un témoignage d'un joyau préhistorique que la montée de la mer condamne inexorablement à la disparition.
Encore un mot pour vous dire qu'en tennis, Novak Djokovic continue son chemin vers l'impossible grand chelem du tennis. Il est qualifié pour les demi-finales à l'US Open. Il jouera contre Alexander Zverev dans un instant. La météo.
L'aventure a un visage. Sur les eaux de la mer de Chine, le profil d'un pirate bien connu se dessine dans l'ombre d'une cabine de pilotage. Corto Maltese est de retour. Bastien Vivès et Martin Kenéen s'emparent du mythique aventurier Hugo Pratt et l'emmènent des rues bondées de Tokyo aux plus hautes montagnes d'Amérique du Sud. Découvrez le gentilhomme de fortune comme vous ne l'avez jamais lu. Corto Maltese, Océan Noir. Un roman graphique Casterman à retrouver en librairie.
Vous connaissez l'histoire de la deuxième paire de lunettes ? Celle qu'on laisse traîner partout et qu'on retrouve un jour sous le canapé. Celle avec laquelle on n'entend jamais « Oh, oh, ça ne va trop bien ». Celle qui passe sa vie au fond de la boîte à gants. Eh bien, cette histoire, c'est de l'histoire ancienne.
Pendant les jours Chris, faites-vous 2 fois plus plaisir avec une deuxième paire de marques offerte aussi belle que la première. Alors rendez-vous dans votre magasin Chris. Chris, vous allez vous aimer. Offre valable jusqu'au 27 octobre 2021. Voir conditions en magasin. Liste des magasins participants sur chris.com. Dispositif médical.
France Inter aime
The Artist, la nouvelle émission de Nagui, samedi 11 septembre à 20h40 sur France 2.
Ils ont écrit leurs paroles, ils ont composé leur musique, ils ont un univers bien à eux. Leur talent est en jeu, leur carrière dépend de vous. Ensemble, nous découvrirons l'artiste complet, The Artist.
Retrouvez The Artist, samedi 11 septembre à 20h40 sur France 2.
Je compte sur vous.
Un partenariat France Inter.
Comme promis, le temps de ce jour.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Encore 4 départements du Sud-Ouest en vigilance orange, Élodie.
Oui, alors on a beaucoup de nuages sur la plupart des régions, des averses et des orages au menu, alors plus nombreux entre les Pyrénées et le Nord-Est avec de la grêle et des rafales de vent possibles. Mais c'est vraiment en fin d'après-midi que les orages et les pluies vont se multiplier et se renforcer sur le Sud-Ouest, donc sur l'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers et le Tarn-et-Garonne qui sont en vigilance orange. On attend des cumuls de pluie importants en peu de temps, de l'ordre de un mois de pluie en seulement quelques heures. Des inondations sont donc à craindre et une accalmie est attendue seulement en milieu de nuit prochaine, donc soyez vraiment très prudents. Un petit mot des températures, ça baisse, mais on reste quand même avec des températures assez élevées pour la saison. 22 degrés à Dinard, 25 à Tours, à Agen, 26 à Cambrai, Nancy, Dijon et Perpignan, 27 degrés à Paris, à Grenoble ou à Montélimar, et on ira jusqu'à 30 à Ajaccio.
Élodie Calac, Météo France, merci beaucoup. Tout de suite, trois leçons sur l'école républicaine.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvy.
Les inégalités scolaires ne sont pas une fatalité. Des mesures déjà en place pour certaines d'entre elles permettent de réduire l'écart de résultats scolaires entre familles pauvres et riches, entre enfants issus de l'immigration et les autres. C'est la thèse des trois leçons sur l'école républicaine, publiée en cette rentrée par l'économiste et sociologue Éric Morin. C'est publié au Seuil dans la collection La République des idées. Et deux sujets qui peuvent prêter à controverse y sont abordés. L'effet de l'interdiction du voile sur la réussite scolaire et l'impact des inspections d'enseignants au collège. 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. L'appli France Inter également, vous êtes déjà nombreux au standard. Bonjour Éric Morin.
Bonjour.
Avant de plonger dans votre livre, une question d'actualité. Cette idée évoquée par Emmanuel Macron qui doit s'appliquer à la rentrée prochaine, des directeurs d'école qui choisissent leur équipe dans un certain nombre d'écoles. Est-ce que ce serait une bonne réforme de votre point de vue?
C'est une réforme qu'on peut expérimenter, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que le principal problème dans les écoles qui souffrent de pas avoir de professeurs suffisamment expérimentés, c'est qu'il n'y a pas de candidature pour commencer. Vous allez pouvoir donner le droit de sélectionner. Il existe d'ailleurs des gens en partie dans les zones vraiment les plus difficiles où on peut recruter sur profil. Vous allez donner ce droit à des directeurs. Ça va chambouler dans une mesure qu'on a du mal à bien mesurer. C'est pas du tout l'esprit du système scolaire français, ça. Ouais. C'est vraiment plutôt les Anglais qui ont des systèmes très libéraux comme ça.
C'est quelques dizaines d'écoles labos, hein,
mais pour l'instant, il n'y a pas de candidat, voilà. Et même si vous êtes pas sélectionné par le directeur, vous allez finalement être capable de retrouver ces écoles via la procédure normale, parce que c'est des écoles qui sont fuies par les parents et par les profs.
Alors venons-en à votre livre, et dans l'ordre, le premier chapitre qui s'intéresse à l'effet de l'interdiction des signes religieux ostentatoires à l'école, au collège et au lycée, le voile en l'occurrence, les effets sur la réussite scolaire des jeunes filles de familles musulmanes. C'était la circulaire Bayrou en 1994, puis la loi de 2004. Allons d'abord aux conclusions, puis on parle de la méthode ensuite. La conclusion, c'est que l'interdiction du voile a eu des effets nets sur la réussite scolaire.
L'interdiction du voile, en théorie, ça peut avoir des effets négatifs sur celles qui sont très attachées au voile, pour qui c'est une forme d'affirmation d'être française et musulmane. Donc dans les enquêtes ethnographiques, ça existe. Ça peut aussi avoir des effets positifs sur celles qui sont en conflit avec leurs parents, avec leur entourage, parce qu'elles vivent ça comme une injustice d'être obligées de porter le voile, leurs frères non, et elles peuvent pas rejoindre la société des adolescents. Donc ça peut avoir des effets positifs ou négatifs. Avec les grandes enquêtes de l'INSEE, on a pu éclairer cette question, voir si avant et après les régulations qui ont restreint la possibilité de porter le voile, il y avait des variations spécifiques à la hausse ou à la baisse des résultats scolaires des jeunes filles du groupe musulman qui ont grandi dans des familles musulmanes. Et ce qu'on voit aux deux grandes étapes de cette interdiction, la circulaire Bayrou en 94 et la loi de 2004, surtout après la circulaire Bayrou qui a fait l'essentiel du travail d'après nous, on voit une amélioration de ces jeunes filles. Et on voit par exemple rien du côté des garçons, donc c'est bien quelque chose qui a concerné spécifiquement les jeunes filles.
Alors, en regardant des sous-groupes, la proportion de pères de confession musulmane par exemple, l'activité de la mère, femme au foyer ou en emploi, autrement dit, les familles plus ou moins patriarcales, vous constatez que les progrès de réussite scolaire sont plus nets dans ces familles-là.
Voilà, vous pouvez comparer à l'intérieur des familles où il y a une forte probabilité que l'ascendance soit musulmane, par exemple les familles dont le père est d'une nationalité du Maghreb versus ceux dont le père est d'une autre nationalité africaine. L'immigration française est telle que il y a beaucoup plus d'ascendance, deux fois plus en fait, d'ascendance musulmane dans les familles maghrébines plutôt que dans le reste de l'Afrique. Et nous, on voit que l'amélioration a aussi été deux fois plus importante pour les jeunes filles d'ascendance musulmane. Et toujours rien du côté des garçons, ni pour les uns ni pour les autres.
Alors, question sur la méthode, Éric Morin. Comment isoler les filles issues de familles musulmanes? La religion des parents n'est pas mentionnée dans les grandes enquêtes nationales. Vous êtes appuyé sur l'enquête sur l'emploi conduite chaque année par l'INSEE, qui fournit pas d'informations directes sur la religion des parents, mais sur leur nationalité à la naissance, née en France ou bien pays du Maghreb, etc., etc. En croisant cela avec d'autres enquêtes, je donne pas tous les détails, mais petit 1, la photo est imparfaite malgré tout.
Alors on constitue deux groupes avec l'enquête emploi, ouais, sur la base de la nationalité à la naissance du père, et on peut vérifier dans des enquêtes ad hoc qui sont conduites par l'INED et par l'INSEE, ouais, sur le lien entre nationalité ou pays de naissance et la confession du père, on peut vérifier que nos deux groupes sont tels que, dans le premier groupe, celui qu'on appelle musulman, 85% à peu près des pères sont musulmans. C'est-à-dire, tandis que dans le groupe qu'on appelle, nous, non-musulmans, il y a moins de 1% de pères musulmans. Donc c'est pas parfait, mais on contraste quand même deux groupes où il n'y a pas du tout d'ascendance musulmane dans l'un et une énorme majorité d'ascendance musulmane dans l'autre.
Deuxième remarque, comment est-ce qu'on peut isoler le facteur voile dans la réussite scolaire de cette jeune fille musulmane? On en revient à deux explications que vous écartez au début du livre. On se dit que les jeunes filles nées au début des années 80-90, deuxième voire troisième génération, ont de meilleurs résultats parce qu'elles sont mieux intégrées, qu'elles maîtrisent mieux le français, qu'elles maîtrisent mieux les codes de la société française globalement.
Alors, ça, je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire, mais que ça serait, on ne ferait que commenter une amélioration générale, un trend général. Ce trend, on le voit pas pour les garçons. C'est d'abord un
première
trend.
Remarque.
Première remarque. Et deuxièmement, grâce à la taille des enquêtes emploi, on peut regarder vraiment le timing de l'amélioration. C'est-à-dire quand est-ce que ça s'est produit, pour quelle génération exactement, on voit s'infléchir à la hausse les trajectoires des jeunes filles. Et quand on fait ça, on voit que le gap entre les jeunes filles d'origine musulmane et les non musulmanes reste très stable, jusque pile au moment où on arrive à des générations qui vont entrer au collège, en même temps que la circulaire Bayrou commence à être appliquée. Et plus elles connaîtront le collège Bayrou, plus les inégalités vont baisser. Ensuite, on a à nouveau un palier. Et puis arrive la loi, et là, à nouveau, au fur et à mesure qu'elles sont exposées à cette deuxième régulation, on voit carrément les inégalités quasiment disparaître entre les deux groupes.
Est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi un effet des mesures? Alors, je retiens l'idée qu'il y a une différence filles-garçons, un effet des mesures zone éducation prioritaire qui sont mises en place justement au début des années 80 et qui pourraient avoir un effet sur la réussite des jeunes filles en particulier. Sachant que de toute façon, les études disent que globalement, jusqu'en terminale, les filles réussissent mieux que les garçons, globalement.
Oui, alors, mais de nouveau, c'est le timing. Pourquoi ça correspond pile à ce timing qui n'est pas celui exactement des zones d'éducation prioritaires? Par ailleurs, les zones d'éducation prioritaires, c'est un domaine que je connais pas mal pour avoir travaillé dessus.
Ouais.
Jusqu'aux évaluations les plus récentes, je n'en connais pas qui ait réussi à identifier un effet positif significatif de la fréquentation d'une zone d'éducation prioritaire sur les élèves. Il y a plein de raisons, ça sera un autre débat.
Oui.
Donc je vois pas que cette explication puisse fonctionner.
Bon, il y aurait d'autres questions, mais je voudrais qu'on en vienne aux inspections parce qu'il y a beaucoup d'interventions au standard de France Inter. Comment réduire les inégalités? Quel effet des inspections d'enseignants au collège? Alors là aussi, vous prenez des panel, 10 000 enseignants, en mathématiques, 10 000 enseignants en français, corrigez-moi si je dis une bêtise.
Toutes les inspections qui se sont déroulées sur une plage,
voilà,
plage de temps donné.
Et vous regardez les résultats au brevet?
On regarde les résultats au brevet.
En commençant par poser que les inspecteurs sont les mal-aimés du système. En gros, à droite, on trouve que c'est d'affreux pédagogues, à gauche, que c'est des caporaux. Et les profs ont souvent des souvenirs un peu traumatisants. Vous dites que les inspections ont des effets sur les résultats scolaires?
Nous, ce qu'on fait, on a toutes les inspections sur une plage de 4 ou 5 ans. Là, j'ai un trou, je ne sais plus si c'est 4 ou 5. Et sur cette plage, on a la moitié qui vont être inspectés,
ouais,
nos enseignants, et l'autre moitié qui ne va pas être inspectée. Et ce qu'on va faire, c'est une comparaison vraiment très détaillée de ce qui se passe en termes de résultats de leurs élèves aux épreuves communes de fin d'année du bac, aux épreuves qui ne notent pas eux, qui sont notées par d'autres, entre ceux qui ont vécu juste après les inspections et juste avant les inspections. Et à notre grande surprise, mais de manière hyper robuste, notamment en mathématiques, mais aussi en français dans une moindre mesure.
Oui, encore plus en mathématiques.
En mathématiques, mais ça c'est une constante dans les recherches en éducation. On trouve une amélioration, pas énorme, mais nous avec la taille de nos panels, on est capable de bien la mesurer, et qui joue un rôle cumulé sur les carrières non négligeables.
Allez, Caroline au standard de France Inter, bonjour Caroline. Ouais. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour, soyez la bienvenue. Alors, vous êtes enseignante et vous avez subi des inspections?
Je ne vais pas dire que j'ai subi.
J'ai pas trouvé d'autre mot, mais il y a sûrement un mot mieux.
Alors, j'ai été inspectée plusieurs fois dans ma carrière. Maintenant, on n'appelle plus ça des inspections, hein, qu'on soit bien d'accord, ce sont des visites conseils. Visites conseils,
ça change quoi? Ça change quoi?
Alors, ça change beaucoup, parce qu'avant, on était inspecté, on pouvait gravir des échelons plus rapidement, si on passait au grand choix, par exemple. Maintenant, on est visité conseil. On est stressé 2 mois à l'avance, puisque maintenant ils nous avertissent 2 mois à l'avance, et en fait, on ne gagne plus rien. Tout le monde avance à l'ancienneté. Qu'on fasse très bien son job, qu'on le fasse moins bien, tout le monde avance au même rythme, c'est-à-dire gravit un échelon en moyenne tous les 3-4 ans. Donc ces visites ne sont que là, si vous voulez, pour nous stresser. Moi, quand j'ai été visitée plusieurs fois, finalement, ça ne m'a pas servi énormément. Sur les conseils pédagogiques, je n'ai pas eu des conseils pédagogiques qui ont changé ma manière d'enseigner. Jamais.
Merci pour ce témoignage, Caroline. Je coupe parce que la liaison n'est pas très bonne. Réaction, Éric Morin. Ça correspond à beaucoup de témoignages de profs qu'on entend.
Alors, sur la réforme, j'avais compris effectivement qu'un des changements importants, c'était que le livre n'est pas sur la réforme. Hein. Les données qu'on a, c'est avant la réforme. Ouais. Donc là, je parle d'un truc qui n'est pas étudié dans le livre. La réforme, j'avais bien compris que un des changements, c'est que maintenant l'espacement entre deux visites est vraiment
régulier.
Régulier, et donc on peut se préparer
à
une visite, ce qui peut avoir des effets positifs ou négatifs. Certes, ça angoisse les gens, mais ça fait aussi mieux se préparer. Je sais pas, c'est à voir. Après, j'avais pas compris que c'était déconnecté de l'avancement.
On va peut-être soumettre ça à Bruno. Bonjour, Bruno.
Bonjour.
Vous avez été inspecteur dans plusieurs pays.
Oui, j'ai appartenu, bonjour donc à votre invité, bonjour France Inter. J'ai effectivement été enseignant dans un premier temps.
Ouais.
Je n'ai pas été inspecteur, mais j'étais formateur pour accompagner les jeunes enseignants avant leur première inspection d'entrée dans la carrière. Et effectivement, j'ai travaillé dans plusieurs pays, l'Égypte, l'Argentine et la Finlande, où j'avais des postes cadres pour accompagner les enseignants francophones dans ces pays. Et je voulais dire que je suis très surpris d'entendre que les inspections peuvent améliorer les pratiques pédagogiques et les résultats. Qu'est-ce que ça serait alors avec les résultats PISA qui sont parmi en France, les résultats PISA par rapport au reste des pays européens est un des plus minables. Et je confirme ce qu'a dit l'auditrice précédente, l'inspection est un facteur de stress considérable à l'étranger. J'ai vu des enseignants se faire inspecter avec des visites de la communauté éducative où les collègues disent leurs mots, où les chefs d'établissement disent leurs mots, et les élèves et les parents d'élèves disent leurs mots. C'est un véritable accompagnement de toute une communauté éducative. Il n'y a pas la verticalité de l'inspecteur qui vient faire une visite d'accompagnement. On change les termes, mais on ne change pas du tout les pratiques. Et j'ai souvent vu en France, et encore je suis jeune retraité, des jeunes collègues d'âme qui pleurent avant les inspections, qui sont stressés et qui pleurent après les inspections. Il y a encore de la maltraitance dans les inspections aujourd'hui en France, il faut le dire.
Merci Bruno pour ce témoignage, ça confirme ce qu'on disait en abordant ce chapitre avec moi. L'inspection n'a pas forcément bonne presse. Alors, vous regardez les résultats au brevet. Un point important, c'est que l'effet que vous décrivez en regardant les grandes masses statistiques... il est plus important encore en zone d'éducation prioritaire.
Oui, c'est particulièrement là qu'il est important. Lorsque les inspections se portent sur des enseignants souvent peu expérimentés, dans des contextes difficiles, et je sais pas, les chiffres parlent, on voit des améliorations beaucoup plus sensibles pour les enseignants et les résultats de leurs élèves. On voit même que ces effets d'inspection perdurent au lycée. On voit que quand vous avez bénéficié d'une bonne inspection, les choix au lycée peuvent être même différents. Ce que je voudrais dire, c'est le livre dit pas que l'inspection, c'est le meilleur moyen de faire progresser les enseignants, l'inspection à la française. Mais ce que je pense que ça indique, et ça fait écho à d'autres pays, à d'autres recherches dans d'autres pays, c'est que tout ce qui favorise ce que disait l'auditeur à l'instant, c'est-à-dire un regard peut-être pas d'un inspecteur, peut-être dans selon d'autres modalités, des échanges sur ces pratiques pédagogiques, tout ce qui désenclave un peu l'enseignant de son rapport un peu en tête-à-tête et solitaire avec la classe. Il me semble qu'à regarder les études disponibles, tout ça c'est bon pour l'enseignant et in fine pour les élèves.
Et vous abordez également la question des classes prépa, c'est la troisième de ces trois leçons sur l'école républicaine. Et on n'a pas le temps de s'arrêter sur la conclusion, mais vous insistez sur l'aspect économique et social. L'aide matérielle aux familles est une clé pour favoriser la réussite scolaire. Merci Éric Morin d'être venu dans les studios de France Inter. Trois leçons sur l'école républicaine, c'est au seuil la République des idées.
France Inter, le 13-14.
À suivre, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Belmondo ou Stavisky?
Stavisky, c'est un grand rôle de Belmondo, ce qu'on conteste à tort parfois.
À tout à l'heure, et cela évidemment avant la cérémonie d'hommage. Notre feuilleton une semaine dans la vie d'Amine Kessassi grâce à Mathilde Vinceneux. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Elle était Roxane dans le Cyrano de Belmondo. Elle était à sa côté aussi dans Keane pour son grand retour au théâtre en 87. Et elle remonte sur scène au moment où on dit adieu à Bébel. La comédienne Béatrice Agenin est à votre micro aujourd'hui, Frédéric.
Molière 2020 de la comédienne de théâtre privé pour son rôle dans Marie des Poules, gouvernante de Georges Sand.
Pièce qu'elle reprend demain, Théâtre Montparnasse à Paris. Je précise que vous l'avez rencontrée avant la mort de Jean-Paul Belmondo.
Et c'est un titre de Jacques Brel que Béatrice Agenin a voulu me parler. Brel, qu'elle a eu la chance, la grande chance, de voir deux fois en concert après l'avoir découvert par un copain au milieu des années 60.
J'étais dans le Berry, 15 ans, aucune connaissance de rien. Je flirtais avec un garçon plus âgé que moi qui était d'une ville voisine. C'était le temps encore du bal à l'accordéon. Donc j'avais pas beaucoup de connaissances de la musique. J'écoutais la radio, les années yéyé. Et puis, ce garçon me fait découvrir Brel, me le fait écouter. J'étais un jour chez lui, il me fait écouter ça. Je suis restée pantelante. J'avais des frissons partout. Je ne savais pas qu'on pouvait chanter comme ça. Je ne savais pas qu'on pouvait dire des mots et tous leur donner une force, une valeur particulière. C'est très certainement là que j'ai commencé à me dire que je pourrais être comédienne. Tellement c'était beau.
Il vous a donné envie de monter sur scène?
Oui, il m'a donné envie de monter sur scène.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des bergements. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes.
On est en 1964, Frédéric.
Le 16 octobre 64, à l'Olympia. Cette chanson, Brel venait de l'écrire et il ne l'a jamais enregistrée en studio, mais il existe donc une captation de ce concert, devenu ensuite un disque. Et si Amsterdam a tant marqué Béatrice Agenin quand elle avait 15 ans, c'est notamment grâce à sa force évocatrice.
Dans le port d'Amsterdam, quand il commence, on a tout de suite quelque chose d'interdit, de sulfureux, de violent. Ces types, ils doivent être terribles avec les filles qu'ils ont dans leur lit. Ils n'ont pas le temps de les regarder. Ils font des travaux très durs. C'est très dur, la mer. Il aurait pu parler de la mer. Non, il parle des gens qui ont des poissons ruisselants. On sent presque l'odeur du poisson.
Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant.
Je voyais les gens avec leurs poissons, avec leur détresse. Ils vont à la pêche et ils reviennent et ils ont pour toute compagnie des putes, quoi. Et ils boivent et ils chantent et ils se frottent contre la panse des femmes. J'avais aucune connaissance du sexe à cette époque-là. Tout ça, ce n'était pas mon monde. au monde de petites jeunes filles. Mais ça m'a frappée au cœur, complètement bouleversée. Ça m'a attrapée. J'ai encore des frissons rien qu'en en parlant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et qui boivent et reboivent et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, de Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames.
Vous êtes resté un peu avec ce garçon qui vous a fait découvrir Brel ?
Non, pas du tout, pas du tout. C'était juste le passage intéressant pour me faire connaître ce que je ne connaissais pas et qui était pour moi une révolution quand même.
Jacques Brel, Amsterdam, sur la scène de l'Olympia en 64. C'était donc le choix de Béatrice Agenin, Frédéric.
Et les frissons de Béatrice Agenin qu'on retrouve sur scène dès demain au Théâtre Montparnasse dans Marie des Poules, gouvernante de Georges Sand.
Le feuilleton. Une semaine dans la vie d'Amine Kessassi, ce jeune étudiant de Marseille dont le frère a été tué dans un règlement de compte. Il a décidé de se battre contre la misère, la criminalité qui gangrène les quartiers nord. Il a interpellé le président Macron lors de sa visite à Marseille la semaine dernière. Vous allez l'entendre, mais d'abord, Mathilde Vinceneux l'a rencontré lors d'une distribution alimentaire organisée par son association qui s'appelle Conscience.
Bonjour, comment ça va? Ça va, super. Déjà, je vous donne ça.
D'accord, merci.
Et puis, je vous en prie. Et puis, donc, je leur ai dit que pour septembre, s'ils pouvaient vous faire les colis par semaine. Et donc, dès qu'il y a pour les couches, je vous dirai aussi au moins.
Vous pouvez me dire ce qu'il y a ?
Il y a des œufs, de riz, de lait, des pâtes et de l'huile, de farine. C'est merveilleux, c'est vraiment bravo.
Allez, bon courage, à bientôt. Alors, ce principe est parti depuis le début de la crise sanitaire. Donc déjà parce que les familles sont en situation de grande précarité, mais surtout, ce que les gens n'ont toujours pas compris, c'est que derrière ces jeunes, les jeunes qui tirent sur d'autres personnes, les jeunes qui dealent, il y a des mamans. Et justement, ces mamans, si on arrive à les atteindre, si on arrive à les approcher, que ça soit par les colis alimentaires, que ça soit par nos actions de nettoyage ou nos actions de sensibilisation, bah, on va créer un sentiment de confiance avec ces mamans. Et puis, on va peut-être se confier en nous disant bah, « Moi, mon fils, il fait ça. » Donc, on va peut-être lui proposer des alternatives. Je sais qu'il y a plein de formations qui sont proposées par Pôle emploi, qu'il y a plein d'autres solutions qu'on pourrait mettre en avant. On pourrait par exemple les envoyer dans une autre ville, faire un service civique pendant 6 mois, ce genre de choses. Donc on s'est dit avec les colis alimentaires qu'on pourrait être au centre de ces familles et qu'on pourrait être là où ça fait le plus mal.
Est-ce qu'il y a eu des mamans depuis que tu fais ça qui sont venues se confier à toi?
Oui, vraiment. Alors, j'ai arrêté de compter au bout de 10, mais il y en a eu quelques-unes au début qui étaient un peu réticentes. Il y en a une qui, par exemple, a quitté le quartier parce que on lui a demandé de garder des produits dans son appartement. Elle a refusé. Donc le premier jour, c'était les pneus qui étaient crevés. Le deuxième jour, c'était deux jeunes qui étaient devant l'école et qui ont attendu ses enfants. Donc il y a des personnes qui partent parce qu'elles ont peur pour ça. Des personnes qui partent parce qu'elles ont peur que leurs enfants entrent dans ces réseaux et c'est même pas le fait de les voir rester au pied d'un immeuble, mais c'est le fait de se dire bah, je vois mon fils aujourd'hui, mais je sais que demain il lui arrivera probablement quelque chose, et si c'est pas lui qui se fait tuer, c'est lui qui tuera malheureusement.
En plus des distributions de colis alimentaires, Amine a organisé 2 marches blanches avec les familles des victimes de règlements de compte.
Décembre 2020, j'ai perdu mon grand frère. Il s'est fait assassiner. Il s'est fait assassiner avec ses amis par des criminels.
La deuxième marche a eu lieu la semaine dernière, à la veille de la venue d'Emmanuel Macron à Marseille. Et lorsque le président s'est rendu dans les quartiers nord, Amine l'a interpellé.
Maintenant, il faut exiger des entreprises qu'elles recrutent des jeunes des quartiers, que même s'ils n'ont pas de qualification, parce que justement, on n'a pas eu la chance d'aller dans de grandes écoles, bah, qu'ils peuvent nous former, les entreprises, que la formation continue, ça existe, et que peut-être ma génération, ceux qui ont 18 ans, 20 ans et plus, c'est un peu trop tard, mais on peut s'occuper des jeunes
qui sont encore dans les collèges, des jeunes qui entrent à peine dans les écoles et qu'il y a tout ça à faire. Et je pense que vraiment, main dans la main.
Par téléphone, il raconte cet échange.
Avec Emmanuel Macron, notre échange s'est bien passé. Il m'a écouté, il m'a regardé. À la fin, il m'applaudit, il se lève. Bon, voilà. Pour un jeune de 17 ans, je pense que c'est quand même satisfaisant. C'est quand même une fierté d'avoir rencontré le président de la République. Après, voilà, je n'ai pas été intimidé, loin de là. Mon discours a été le même, je pense. Maintenant, il y a une urgence. Parce que bon, c'est bien beau d'avoir fait ce premier pas. C'est peut-être une petite case qu'on coche. Mais maintenant, voilà, il faut faire la suite. Il faut continuer. Il faut mener des actions. Ce que je veux, c'est qu'ils réagissent très rapidement.
Une semaine dans la vie d'Amine Kessassi, feuilleton de Mathilde Vinceneux, réalisation Lucie Lemarchand. Demain, les ambitions d'Amine qui rêve de faire l'ENA ou ce qui lui succédera, l'Institut du service public.
France Inter. Le 13-14.
Le vif de l'histoire. Bebel, hommage national cet après-midi aux Invalides. Et avant l'hommage national, l'unanimité des réactions pour saluer Jean-Paul Belmondo. Jean Lebrun, la France ordinaire pleure son héros extraordinaire.
Ben oui, l'hommage national a déjà eu lieu avant l'hommage national. Le Figaro, par exemple, a publié des pages et des pages, ce qu'il ne fait jamais pour une personnalité artistique, et un numéro spécial. Le préfet de police lui-même a rendu public un message. Belmondo, à lire son communiqué, auquel le Figaro fait une grande place, aurait suscité beaucoup de vocations de policiers. Enfin, passons. On a eu aussi la satisfaction d'entendre les journalistes évoquer la fonction de découvreur, de révélateur qu'a rempli Jean-Luc Godard au moment d'À bout de souffle. Pourtant, c'est un nom, Godard, qui écorche souvent la langue de certains de nos confrères. On ose imaginer ce qu'écrira le Figaro au lendemain de sa mort. En revanche, vous aurez remarqué que le Stavisky, dans lequel Belmondo tourna avec Anna Renet en 74, a été systématiquement évoqué comme un bide.
Alors qu'il a eu du succès en salle.
Oui, vous dites-vous, 1 million de spectateurs. En tout cas, beaucoup de critiques. Des critiques qui reprochaient au film, à Cannes, d'avoir été trop mondain, superficiel, insuffisamment politique. Alors on reprend. Anna Renet s'était vu refuser la possibilité de tourner depuis 1968. Lui, l'homme de Nuit et brouillard, d'Hiroshima, de Marienbad, de Muriel, de La guerre est finie, envisageait de renoncer au cinéma. Un scénario avait été préparé pour le producteur Lebovici sur le scandale Stavisky. Cette affaire, conduite par un financier véreux, a coquiné avec des politiques, avait failli emporter la République en 1934. Belmondo s'enthousiasma pour le rôle et reprit même celui de producteur, incognito, pour ne pas gêner Renet pendant le tournage. C'était aussi un homme élégant. N'aurait-il fait que ça, redonner un avenir à Renet? Après avoir tourné avec Godard et Truffaut, ben il aurait mérité l'hommage de la nation.
Mais alors pourquoi ce film Stavisky reste entouré d'une réputation d'échec?
Alors c'est plutôt une critique de gauche qui a parlé de film mondain. Parce qu'en matière de cinéma, Bruno, la droite et la gauche, ça existe encore. Arlette, la femme de l'escroc dans une boîte de nuit russe à Paris ou descendant d'une hispano devant l'hôtel du Palais à Biarritz pendant un concours d'élégance automobile. C'est pourtant pas du luxe inutile. Stavisky, c'est pas un film mondain, c'est un film sur la mondanité. Alors ce ne serait pas un film assez politique non plus. Toujours la critique de gauche. Mais enfin, le scénario, il est signé Georges Semprin, le grand militant antifranquiste. On voit même apparaître Trotsky, qui vient demander alors refuge à la France. Les rapports du film avec l'histoire sont précis. Il est vrai que l'extrême droite de l'époque n'en sort pas grandi, et c'est sans doute ce que n'apprécie pas celle d'aujourd'hui. Pour elle, Stavisky reste un métèque qui manipulait des politiciens corrompus de la gauche pour tromper les braves gens. Le Stavisky de Belmondo ne ressemble aucunement à ce portrait commode. Il arbore un sourire éclatant, offrant des bijoux à Arlette, il lui dit « Ils vont tous voir combien nous sommes heureux !» Et cette volonté de paraître le perdra d'ailleurs, parce qu'il aurait acheté l'univers pour qu'on parle de lui, alors qu'il aurait dû donner l'univers pour qu'on l'oublie.
Bref, le Stavisky de Belmondo est sympathique.
Ben, vous ne le savez peut-être pas, mais Stavisky rêvait en fait d'être Belmondo. On a vu réapparaître dans le numéro d'hommage du Figaro une grande signature de la haute époque du journal, celle de Pierre Marcabru. Que dit Marcabru, comme vous, que la première qualité de Belmondo, c'est qu'il est sympathique et les escrocs sont sympathiques, Stavisky le premier.
Et l'hommage national à Jean-Paul Belmondo, c'est à 16h30, édition spéciale sur France Inter à partir de 16h. Avant cela, il y aura 14h, la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Quel est le programme?
Eh bien, nous allons parler du statut juridique de la Loire.
À tout de suite.